Chapitre 7 Où Rouletabille redevient Rouletabille. Le lendemain de ce jour funeste, nous eûmes la joie d'apprendre de la bouche de M. Boulanger que sa femme était sauvée et que la fièvre qu'il avait prise la veille au soir et l'avait tenue délirante toute la nuit était presque entièrement tombée. Il prévoyait la possibilité pour le lendemain du transport de Thérèse dans une petite villa qu'il venait de louer à ce dessein sur la côte d'Ingouville. Là, elle finirait de se rétablir, loin de tous les objets qui, à Deauville ou ailleurs, pouvaient encore lui rappeler ses peines secrètes et toutes les étapes de son martyre. En attendant, nous la vîmes encore ce matin-là, dans le cadre tragique de la Villa Fleurie, dans ce salon où je ne pouvais pénétrer sans évoquer les terribles amours de Roland et de Théodora Luigi. Mais cette femme n'ouvrait les yeux que pour voir son mari à ses genoux, et ses regards disaient assez qu'une telle vision la payait de toutes les misères passées. Voici la scène à laquelle nous assistâmes. Introduits par Ivana, nous avions fait sur sa recommandation aucun bruit en entrant, et je ne pense point que M. Boulanger, qui nous tournait le dos, s'aperçut tout d'abord de notre présence. Il était à genoux comme la veille. Il faut dire que le divan sur lequel était étendue Thérèse était très bas et que Roland n'avait sans doute point trouvé de meilleure position pour la soigner que cette génuflexion qu'il prolongeait du reste volontairement. Il ne se lassait point de demander pardon à Thérèse. Alors celle-ci ferme les yeux en murmurant « Tais-toi, tais-toi !» Il lui jurait aussi sur sa vie de ne plus jamais revoir Théodora Luigi. « Mais ne dis plus rien, ne dis plus rien. Dis-moi seulement que tu m'aimes encore un peu. Mais je t'adore, ma chérie !» Et il lui couvrait les mains de baisers. « Ah !» soupira-t-elle en tournant la tête de notre côté. « Je suis contente que vous soyez tous là autour de moi, mes bons amis. Vous avez entendu cela ? Il m'aime. Il m'aime encore un peu. Je vous disais bien qu'il n'avait jamais cessé de m'aimer. Dieu, que je suis heureuse !» Je sortis de cette séance bouleversée. Roland paraissait vraiment sincère dans ses remords. Et il l'était. Ivana nous rejoignit un instant et nous fit part de ses espérances. Mais c'est une nouvelle vie qui commence pour eux. Il fallait un coup de tonnerre pour amener Roland dans la normale. Désormais, ce sera un autre homme, tout à la science et à sa femme. Vous verrez, c'est dans sa nature de ne jamais faire les choses à moitié. Comme nous quittions la Villa Fleurie, nous nous trouvâmes en face d'une limousine de route d'où descendait une assez jolie femme, aux traits fatigués, et qui paraissait avoir voyagé toute la nuit. Roland arriva pour la recevoir, mais elle ne lui parla que pour lui demander des nouvelles de Thérèse, et le presser de l'introduire auprès d'elle immédiatement. Nous apprîmes par Ivana que c'était Madame de Lens, à qui Thérèse avait écrit qu'elle s'attendait à tout et même à quelque chose de pire. Madame de Lens, après avoir vu Thérèse, repartit presque immédiatement pour Paris. Il n'était pas plus de 8 heures quand nous redescendîmes au Havre. Rouletabille me quitta de bonne heure et me laissa déjeuner seul. Je profitai de ma solitude pour mettre mon courrier à jour, ce qui me prit jusqu'à 5 heures du soir. Je sortis alors pour aller faire un tour de jetée. Mais je m'aperçus que le vent, qui avait fraîchi depuis le matin, commençait à souffler en tempête. Je m'enveloppai dans un caoutchouc et m'en fus ainsi jusqu'au bout de la digue qui était par instant balayée par la lame. Mais depuis mon enfance, qui s'était passée au bord de la mer, j'ai toujours eu du goût pour ces petits bains forcés, et rien ne m'amuse tant qu'un bon paquet de mer sur le dos, quand, naturellement, il n'y a pas de danger à cela, et que je me trouve à côté d'un solide garde-fou. Le spectacle est toujours poignant. Des bateaux de pêche se hâtent de rentrer. Les petites barques doublent la jetée sur le dos d'une lame d'un audacieux coup de barre. L'une d'elles, depuis quelques minutes, m'occupait particulièrement. Elle semblait manœuvrer assez difficilement. Elle devait avoir perdu son foc, car je ne lui voyais point comme aux autres qui avaient abattu toutes leurs voiles en dehors de celle-là. En enfin, après de grandes difficultés, elle doubla à son tour la digue, et je ne fus pas peu surpris de reconnaître, à côté des deux matelots qui la montaient et qui étaient enveloppés de suroît, mon ami Rouletabille, dans son costume du matin, pantalon blanc et veston bleu. Ah, il était propre. Lui aussi me reconnut et me fit un signe. Je courus pour arriver à quai en même temps que lui, mais il avait déjà débarqué quand j'arrivais. Il était en loques et trempé comme une soupe. Il avait perdu son feutre, naturellement, et montrait une chevelure de sauvage, mais sous sa tignasse, une figure où il y avait du nouveau. « Rentrons vite, m'écriai-je, mais tu n'es pas fou de sortir en mer par un temps pareil. » « Ben, il faisait beau quand je suis sorti ce matin, » me dit-il. Nous nous jetâmes dans une voiture et à l'hôtel, je lui servis le valet de chambre, tant j'avais peur qu'il attrapât quelque méchant rhume. Heureusement que nous avions fait venir nos bagages. Quand je l'eus bien frictionné et qu'il se fut changé, je lui demandai « Me diras-tu enfin ce que tu es allé faire en mer aujourd'hui ?» Il me répliqua « Quand j'aurai bu mon grog, et encore, c'est pas sûr. » Pourquoi ? Parce que j'attends quelqu'un et que si ce quelqu'un-là arrive, tu me feras le plaisir de me laisser seul avec lui. Veux-tu que je m'en aille tout de suite ? Fis-je un peu vexé, car j'ai toujours été d'une susceptibilité ridicule. Mon bon Sinclair, tu penses bien que je n'attends pas quelqu'un pour lui faire mes confidences, mais pour lui en tirer. Mes confidences, c'est toi seul qui les auras, et nul autre, je te prie de le croire. Et d'abord, puisque mon homme est en retard, je te dis tout de suite que ce n'est pas le prince Henri qui a tiré sur Thérèse. Pas possible, m'écriai-je, tu es sûr de cela? Sans cela, je ne t'en parlerai pas. Oui, c'est vrai, je te demande pardon, je t'écoute, mais c'est en mer que tu as appris cela? Bon, on dit oui, et de la façon la plus simple. Je ne suis du reste allé chercher que la corroboration d'une idée qui me possédait déjà. Rappelle-toi qu'hier soir, je t'ai un peu intrigué par ma façon de te dire « Et personne ne saura la vérité jamais. » Sais-tu à quoi je pensais en disant cela ? C'est que le crime avait eu lieu à 11h35 exactement et que la haute mer n'atteignait hier son maximum qu'à 10h40. Bon, je ne vois pas ce que la marée... Et maintenant, suis bien mon raisonnement. On a relevé le cadavre du prince au bas de la falaise à midi. Si c'est lui l'assassin... Il faut donc qu'il se soit jeté du haut de la falaise entre 11h35, heure du crime, mettons 11h40, car il faut bien 5 minutes pour atteindre le bout de la falaise, et midi. Or, il est impossible que le prince se soit jeté du haut de la falaise dans ce laps de temps déterminé. Et pourquoi ? Parce que la marée, en ce moment, ne recouvre l'endroit où s'est jeté le prince que lorsqu'elle a atteint son maximum. Et qu'elle avait atteint ce maximum presque une heure avant le crime. Comme on a relevé le corps du prince mouillé et les habits trempés comme s'il avait passé plusieurs heures dans l'eau, tu vois donc bien que le prince était déjà mort à l'heure où l'on a tiré sur Thérèse. « Mais c'est lumineux, m'écriai-je, comment n'a-t-on pas pensé à cela ?» Christophe Colomb te répondra, fit Rouletabille avec un sourire. Quant à moi, comme je connais bien ce coin de la falaise et que je sais que l'eau y atteint rarement, mon attention avait été tirée dès hier soir sur ce détail. L'horaire des marées me donnait déjà raison avant toutes les enquêtes, mais je ne voulais rien te dire tant que je n'aurais pas été sur les lieux. Je voulais être avant, pendant et après la marée. Voilà pourquoi je pris ce matin une barque et la raison pour laquelle tu m'as vu revenir tout à l'heure en si piteux état, mais parfaitement satisfait. Non seulement la marée n'atteint l'endroit en question que dans les limites du temps que je t'ai dit, mais il lui est impossible, en se retirant, vu la déclivité du terrain, d'y laisser une mare, si petite soit-elle. Ben alors, qui est l'assassin ? Je vais peut-être te le dire tout à l'heure, me répondit-il, après avoir jeté un coup d'œil à la fenêtre. Ah ! Voilà mon homme ! Je collais mon front à la vitre et je vis, traversant la place et se dirigeant vers l'hôtel, un personnage qui, au premier aspect, me parut sans aucun intérêt. Il avait l'allure et les habits de quelque boutiquier ou même d'un courtier de commerce. Je quittai Rouletabille, fort ému de ce que je venais d'apprendre, et roulais dans ma tête cent hypothèses aussi absurdes les unes que les autres. Mon ami ne resta pas enfermé avec l'homme plus de 2 minutes. Quand son visiteur fut parti, Rouletabille vint me chercher. Il avait un visage dur et ses yeux flambaient. Quand nous fûmes dans sa chambre, il me dit tout de suite « C'est bien ce que je pensais. Je viens de faire porter mon enquête sur le revolver. Cet homme est un armurier de la rue de Paris. Je n'ai pas voulu que l'on me vît entrer chez lui, car il est inutile que la police s'imagine que je veuille être plus curieux d'elle. En raison de la personnalité du prince d'Albanie qui se trouve dans le drame, elle ne veut rien savoir et son enquête est déjà classée. C'est du reste ce qui sauve l'assassin. J'ai donc fait venir l'armurier chez moi. Voilà ce que j'ai dit à cet homme. Quand vous vendez un revolver, quelle que soit la marque, avez-vous un moyen de le reconnaître une fois qu'il est sorti de chez vous ? Oui, m'a-t-il répondu, je fais moi-même sous la crosse, près de la gâchette, une légère marque en croix au poinçon. C'est tout ce que j'avais à vous demander, lui répondis-je. J'ai voulu lui faire payer son dérangement, mais il n'a rien voulu accepter, et il est parti non sans m'avoir demandé cependant. Vous n'êtes pas, monsieur Rouletabille, l'ami de monsieur Roland Boulanger ? Je lui répondis affirmativement. Il m'a regardé une seconde et a pris la porte. Et alors ? Et alors ? Mais il faut que tu saches qu'hier, j'ai vu le revolver ramassé par Michel, l'agent bourgeois. C'est Tamar, l'inspecteur de la sûreté, qui voulut bien me le montrer, car nous sommes de vieux copains. Eh bien, j'avais remarqué le coup de poinçon en croix. Ce revolver a été acheté dans la boutique de la rue de Paris. Par qui ? Hein ? Par Roland Boulanger, répondit-il. Et il se mit à bourrer sa pipe. Oh, j'en étais resté la bouche ouverte. Tu as le souffle coupé, fit-il en relevant vers moi une figure de marbre. Dame, qu'est-ce que tu crois ? Oh, je ne crois jamais, je cherche, je vois, je constate. Et quand j'ai plus rien à constater, je conclus. Ce revolver a été acheté il y a 8 jours dans la rue de Paris par Roland Boulanger qui ne sortait plus sans cette arme. Mais qui est-ce qui te l'a dit ? Lui ! Et qui est-ce qui t'a dit qu'il avait acheté ce revolver rue de Paris ? Toujours lui ! Dame, quelle que soit la conclusion, je ne pense pas à la préméditation. Et la preuve en est qu'il s'en est caché à de personne pour se procurer une arme dont il estimait pouvoir avoir besoin dans les circonstances créées par ses intrigues avec Teodora Luigi. On lui disait tous les jours que sa vie était menacée par le prince. Et il a tiré sur sa femme, et c'est horrible. Oh, tu vas vite. En tout cas, il y a des circonstances atténuantes, répliqua froidement Rouletabille. Oh, jamais, tu me révoltes. Ben, ils avaient déjà 2 heures d'opium dans le coco quand Thérèse leur est apparue. As-tu senti l'odeur de la drogue en arrivant? On avait cependant aéré. Oui, ils devaient être dans un bel état. La dernière grande séance avant la séparation, pense donc. Je saisis les poignets de Rouletabille, tellement j'étais indigné. Tu appelles ça des circonstances atténuantes, hein? Je te prie de croire que si j'étais son juge... Il ne s'agit pas de ça, interrompit Rouletabille, de plus en plus glacé. Il s'agit d'expliquer les faits. Eh bien, je ne crois pas que Roland Boulanger, s'il a tiré, ait tiré sur sa femme de sang-froid. Voilà tout. Tu ne veux pas que ces circonstances soient atténuantes. Ça m'est égal, mais cesse de me malaxer les poignets. Thérèse devait être un peu folle, elle aussi. Tu comprends qu'on ne s'impose pas le régime de regarder pendant des jours une porte derrière laquelle votre mari écoute les contes orientaux de Mademoiselle Teodora Luigi, sans que tout à coup n'éclate l'impérieux désir de tomber au milieu de la conversation. Il tira quelques bouffées de sa pipe et continua. Thérèse avait le moyen, par la femme de ménage, de pénétrer dans la villa. Les autres ont peut-être entendu ouvrir la porte et se sont peut-être trouvés tout à coup devant Thérèse. Il faut admettre que ces trois personnages étaient dans un état à ne mesurer ni leurs gestes ni leurs paroles. Dans son cauchemar d'opium, Roland s'est-il cru menacé ou a-t-il cru que Théodora l'était, ce qui me paraît plus normal. Le bruit fait à la porte par Thérèse l'avait certainement fait venir avec son revolver. Il ne fait plus de doute, hélas, que le revolver a servi. Il est même à présumer que s'il n'a servi que 2 fois, c'est que Thérèse lui a arraché les mains, peut-être. Quand l'agent est arrivé, Roland venait de refermer la porte, peut-être. Quand il a entendu l'agent, il l'a rouverte. Sûrement. Voilà bien des peut-être pour un seul sûrement. Après tout, c'est peut-être Teodora Luigi qui a tiré, objectai-je, tant cette idée de Roland tirant sur sa femme me semblait monstrueuse. Je vais encore te dire une chose, Saint-Clair. J'ai bien interrogé Michel l'agent, je l'ai vidé, et j'en ai interrogé d'autres aussi qui étaient dans le voisinage. Eh bien, Thérèse n'a pas crié à l'assassin, Roland, à l'assassin. Elle a crié « Assassin, Roland, assassin !» Le misérable. Et elle lui pardonne. Ha ha, il peut se traîner à ses pieds, mais cette femme est plus qu'une sainte. C'est un ange, expliqua Rouletabille. Quant à moi, inutile de te dire qu'aussitôt Thérèse rétablie, j'emmène Ivana et partons pour la Syrie. 8 jours plus tard, Thérèse était hors de danger. Nous lui avions fait nos adieux. Sur sa prière, Rouletabille lui laissait Ivana quelques jours encore. Avant de rentrer à Paris, mon ami et moi avions fait un tour à Deauville. Nous avions quelques objets à prendre au chaume. Nous ignorions que dans ce moment même, Roland fut à la villa. Nous entendîmes soudain sa voix. Il semblait avoir une discussion avec Bernard, son valet de chambre. Il lui disait « Que voulez-vous, Bernard? Si ce revolver est perdu, tant pis. J'en serai quitte pour en acheter un autre. Et laissez-moi tranquille avec cette histoire-là. » Je regardai Rouletabille et mes lèvres murmurèrent « À l'assassin oh, !»« Tu vas encore trop vite !» me répondit-il dans un souffle. « Tout n'est pas fini !» Chapitre 8 La tuerie. Le drame de Sainte-Adresse, comme on le sait, ne fut que le prélude de l'affreuse tuerie de Passy, mais là encore, procédons par étapes. À Paris, je fus quelque temps sans voir Rouletabille. Un jour, je le rencontrai dans la salle des pas perdus. Je la traversai en hâte et tout à fait exceptionnellement, car il n'est point d'usage de se montrer au palais pendant les vacations. Il revenait du bureau de la presse judiciaire et nous nous arrêtâmes en nous trouvant en face l'un de l'autre. Nous étions à peu près seuls sous l'immense vaisseau. Cependant, nos voix avaient là des sonorités qui le gênèrent tout de suite, sans doute pour ce qu'il avait à me dire. Il m'entraîna dans une galerie adjacente en me demandant « As-tu des nouvelles de Boulanger ?» Je lui répondis que j'avais reçu une réponse de Roland à l'une de mes lettres et que j'avais appris ainsi que Madame Boulanger était en pleine convalescence, ce dont naturellement je m'étais réjoui. « À qui avais-tu écrit ?»« À Madame Boulanger. Je t'avouerai que, depuis ce que tu m'as fait voir du drame de Sainte-Adresse, j'ai la plus grande répugnance à entretenir des relations avec l'illustre professeur. Et c'est lui qui t'a répondu. As-tu gardé sa lettre? Oh, c'est possible, mais je n'en suis pas sûr. Mes secrétaires sont en vacances, il y a assez de désordre en ce moment dans mes paperasses. Bon, ben allons chez toi. Ben, tu dis donc bien avoir cette lettre. Bon, surtout l'enveloppe, si tu l'as encore. Ah, ce coup-ci, tu m'en demandes peut-être trop. 20 minutes plus tard, nous étions dans mon cabinet et je retrouvai la lettre dans son enveloppe. Aussitôt qu'il vit cette enveloppe, Rouletabille pâlit. Cependant, il n'y toucha même point. J'étais à quelques pas de lui et la lui tendais. Il la regarda 2 ou 3 secondes et me dit tout de suite la voix changée « C'est bien, tu peux brûler ça ». Et il s'assit en s'épongeant le front comme n'importe quel d'entre nous qui vient de recevoir un rude coup, un de ces coups qui vous brouille un peu la cervelle. « Que se passe-t-il ? » lui demandai-je avec toute ma tendresse et toute ma pitié en éveil. « Oh, tu vas le savoir, » fit-il. « Tu vas le savoir ce qui se passe, mon bon Sinclair. » Mais il eut peur de s'attendrir et essaya de me narrer les choses sur ce ton indifférent et net, un peu séco, avec lequel il m'expliquait à sa manière le dossier d'une affaire à laquelle personne ne voyait goutte. Mais c'est une autre chose que de travailler sur la chair des autres, et c'en est une autre que de promener le scalpel dans ses propres fibres. Au fait, sa main tremblait. « Ivana, commença-t-il, est revenu à Paris il y a 8 jours. »« Oh, seulement ?» m'étonnai-je. « Oui, sur les prières suppliantes que m'envoyait Thérèse, car je ne reçois de lettres, moi, que de Madame Boulanger. J'ai consenti à ce qu'elle prolongeât là-bas son séjour auquel, du reste, je ne pouvais m'opposer. Enfin, elle est revenue. Elle paraissait fort heureuse de me retrouver. » Ce fut pendant quelques jours une véritable fête. Nous nous sommes conduits comme des écoliers. Si nous ne sommes pas allés à Robinson, c'est tout juste. Elle m'avait dit que le ménage Boulanger était maintenant un ménage modèle et que Roland s'était remis au travail comme si rien ne s'était passé. Ah, il s'est cependant passé quelque chose, ma chère Ivana, avais-je répondu. Et à cause de cette chose-là, je te demanderai, même s'il doit t'en coûter, de cesser toute collaboration avec Roland Boulanger. Tu as un prétexte magnifique. Tu m'accompagnes en Asie mineure dans quelques semaines. Je presserai notre départ si c'est nécessaire, et les préparatifs de ce voyage n'ont-ils pas une liberté d'esprit suffisante pour l'aider dans des travaux que, de toute façon, tu serais obligé d'abandonner ?
C'est tout ce qu'il y a de plus naturel, mon petit zoo, me répliqua-t-elle. Inutile de lui faire de la peine d'avance. Je lui ferai comprendre cela de vive voix à leur retour, et ainsi tu auras toute satisfaction.
Je t'avoue, Sinclair, que je ne m'attendais point à cette docilité, et que je l'embrassais d'enthousiasme.
Non, pardon, interrompis-je. As-tu fait part à Ivana de ta façon de concevoir le drame de Sainte Adresse ?
Non, me répondit Rouletabille. Personne, pas même toi, à cette heure, ne connaît ma façon de concevoir le drame de Sainte Adresse. Il n'y a qu'une personne qui ait le droit de dire la vérité dans cette affaire, et elle eût préféré mourir que de la faire connaître. Je me suis tu pour Thérèse, et ma foi, je ne le regrette pas aujourd'hui.
À cause de ce qui s'est passé hier.
Hier, Sinclair, je me croyais le plus heureux des hommes quand je suis entré au bureau de poste de la rue d'Amsterdam pour y faire recommander une lettre. J'attendais mon tour près du guichet quand, ayant machinalement porté les yeux devant moi, je découvris à quelques pas de moi, attendant à un autre guichet, celui de la poste restante, Ivana. Je fus tellement surpris de la trouver là que je n'eus même pas un mouvement inconsidéré pour me rapprocher d'elle. Je la regardais, stupide. Trois personnes nous séparaient. Elle n'avait qu'à tourner la tête pour m'apercevoir, mais elle était trop préoccupée. Je la vis se pencher au guichet et parler bas à l'employé. L'employé lui donnait une lettre qu'elle saisit comme une voleuse et avec laquelle elle s'échappa. Je ne la suivis même point. L'aurais-je pu ? Je ne tenais pas sur mes jambes. Cette lettre, cette enveloppe, son format, l'écriture ou une écriture un peu hiéroglyphique à laquelle on ne saurait se tromper, j'aurai tout cela longtemps devant les yeux. Ce fut un éclair, un éblouissement, un coup de foudre. Cependant, je voulais être sûr, je veux toujours être sûr, et je ne doute plus que depuis que je l'ai vu ton enveloppe. Du reste, je n'ai point douté un instant. Je savais que c'était de lui. Ivana a une correspondance clandestine avec Roland Boulanger. Il se leva, prêt à partir, et me tendant la main. « Oh, ne fais pas de bêtises, lui dis-je, tu es sûr de cette correspondance, et c'est tout. Sois aussi lucide pour toi-même que tu l'es pour les autres. Après l'explication très nette que tu as eue avec Ivana, celle-ci aura voulu préparer le professeur à la résolution qu'elle a prise d'accord avec toi, lui faire comprendre qu'il ne faut plus compter sur elle, qu'elle se cherche une remplaçante, enfin que sais-je. Elle se cache et la tord, mais d'autre part, elle voit bien que tu ne veux plus entendre parler de cet homme.
Tout ceci est bien possible, me répondit Rouletabille, et il s'en alla.
Resté seul, je n'eus qu'un seul mot, pauvre Rouletabille. On m'avait dit tant de fois « pauvre Sinclair », mais je ne suis pas égoïste. J'aimais Rouletabille comme un frère, un très jeune frère que j'aurais élevé, et mon chagrin fut profond. Je ne manquais point les jours suivants de lui téléphoner. Je lui demandais même des rendez-vous, mais je ne le vis pas. Je reconnus une fois à l'appareil la voix d'Ivana. Ce qu'elle me dit était plein d'amitié, mais assez indifférent, et je jugeais qu'apparemment il n'y avait rien de nouveau dans le ménage. Rouletabille ne lui avait rien dit de l'incident du bureau de poste. C'était grave.
À quelques jours de là, j'appris le retour des boulangers. Je me disposais à aller faire une visite à Thérèse, quand Rouletabille fit son apparition dans mon bureau. Il m'apparut trop calme, trop renfermé dans une vaine armature d'indifférence, trop cuirassé d'avance contre les émotions du dehors et contre celles du dedans. Je vis bien tout de suite qu'il m'apportait quelque chose de douloureux, mais l'orgueil de l'homme est tel que même celui-ci, pour qui moi, en une telle occurrence, je n'avais eu rien de caché, voulait me cacher sa douleur. Il jouait à l'homme fort. Allons donc. Est-ce qu'il y a des hommes forts dans ces moments-là? Manant ou empereur, c'est bien le même déchirement, le même dégoût de tout. Après, on agit suivant son tempérament. On tue, on assassine, on se suicide, ou l'on pousse en tremblant la porte du juge qui va tenter la réconciliation, mais tout d'abord, on a fléchi sous le coup comme un enfant. Il s'assit en face de moi, croisa les mains au-dessus de mon bureau, où il ne pensait plus à bourrer sa pipe, et me dit: « Je n'ai jamais soupçonné qu'une femme pût mentir comme Ivana. » J'avais envie de lui répondre: « Eh bien, et la mienne ?» Mais je m'abstins d'un rapprochement qui lui fait perdre du coup ce bel air doctrinal avec lequel il essayait de me donner le change sur le bouillonnement de ce sentiment intime. « Depuis le retour des boulangers, continua-t-il, elle m'avait déclaré qu'en dehors de la visite que nous leur fîmes tous deux, elle n'avait vu Roland qu'une fois pour lui faire part de mon prochain départ et de la nécessité où elle était de le laisser continuer sans elle ses travaux. Or, mon cher, Ivana et Roland se voient tous les jours de 3 à 5 heures pendant que je la crois à l'hôpital Trousseau. Et quand elle rentre, elle me donne des détails sur ce qu'elle a fait à l'hôpital, sur les personnages qu'elle y a rencontrés, etc., etc. C'est inimaginable. Et c'est bien triste pour ces dames. Un homme ne mentirait pas ainsi. Savoir, fis-je. Non, non, ne nous calomnie pas. Nous ne pourrions mentir ainsi. Nous ne saurions pas, nous n'aurions pas l'effronterie. Et puis il faut avoir cette belle foi insolente dans la crédulité, la stupidité, l'aveugle bêtise de l'autre. Quand elle ment, elle, à l'autre, c'est un homme, mais quand nous mentons, nous, l'autre, c'est une femme. Nous sommes battus d'avance, nous n'essayons même pas. Où se voit-il? Demandai-je. Mais depuis l'histoire de la lettre, je suis Ivana, je l'espionne. Tu penses bien que je ne me suis pas adressé à une agence. Rouletabille ne saurait être mieux servi que par lui-même. En sortant de chez nous, elle va donc à l'hôpital Trousseau, et puis elle ressort presque aussitôt et se rend non loin de là à la clinique du docteur Schall, où Roland Boulanger se trouve déjà quand elle arrive. Elle en ressort 2 heures plus tard, retourne à l'hôpital Trousseau, où elle a dû laisser des instructions dans le cas où je lui téléphonerai, et rentre à la maison. Elle a le front serein, l'œil clair, la bouche vermeille. Elle se porte bien. Elle ne te demande pas si tu as des nouvelles de Boulanger? Non, pas encore, mais cela viendra. En somme, malgré ta défense, elle continue à travailler avec lui. Oui, Charles, qui est un ami de Boulanger, leur prête son cabinet et il palpera cela à 2 heures. Je comprends, fiche, que le mensonge d'Ivana t'énerve, mais réfléchis qu'en somme, la science seule est à ce rendez-vous. Bon. Je le penserai de tout autre que de Roland, mais en cet homme, je n'ai aucune confiance. Il a trop bien commencé un certain jeu avec Ivana pour qu'il ne le continue pas. Et d'un autre côté, en te concédant qu'Ivana a joué la comédie, j'ajouterai qu'il n'y a aucune raison pour qu'elle ait abandonné son rôle. Ne faut-il pas mener à bien, coûte que coûte et avant son départ, le fameux rapport sur la tuberculose? Tu vois, ajouta-t-il, que je mets les choses dans l'état où elles se présentent au mieux de mes intérêts. Mais tu m'as dit toi-même qu'une pareille comédie n'allait pas sans quelques inconvénients. Oui, certes, la preuve en est qu'après l'avoir jouée avec votre assentiment, elle la joue maintenant en dehors de vous. Madame Boulanger ne doit pas être au courant. Non, je crois pas. Elle s'imagine avoir reconquis un nouveau Roland, et on l'étonnerait bien, je le jurerais, si on nous disait que son mari a recommencé à flirter. Oh, avec Ivana! Au fond, vous êtes les premiers coupables. Ne te monte pas la tête. Tu es sûr que ta femme ne te trompe pas, au sens le plus cruel du mot? Ben, c'est quelque chose, cela. Vous allez partir bientôt, n'édifie pas une tragédie avec la tuberculose des gallinacés. Tu me dis que ma femme ne me trompe pas. Je n'en sais rien, expliqua posément Rouletabille en se levant. Quand une femme vous ment, elle vous trompe. Je t'ai dit où commençait le mensonge. Je te dirai peut-être la prochaine fois que je te verrai où il finit. Là-dessus, il me quitta après une poignée de main solide, où son émotion se manifestait plus que sur son visage. 3 jours s'écoulèrent. Le 3e jour, j'appris par un coup de téléphone de mon ami que son départ pour l'Asie mineure était avancé et qu'il quitterait la France avec Ivana dès la semaine suivante. Je le félicitais d'une décision aussi raisonnable et je crus dès lors que le ménage était sauvé. 2 jours plus tard, je me trouvais dans une loge à l'Opéra Comique avec des amis, quand ceux-ci me signalèrent l'entrée dans une avant-scène de M. Parlapapoulos, le célèbre Thessalien. « Vous savez, me dit-on, que c'est lui qui a succédé au prince d'Albanie dans les bonnes grâces de Teodora Luigi. » « Oh, elle n'aura pas pleuré longtemps, rideux, fis-je. »« Bon, c'est pas son genre, me répliqua-t-on. Les princes et excellences se la disputent. Après la mort du grand-duc Michel Androvitch, dont elle avait été l'amie pendant 10 ans, elle accepta les hommages du prince Prozor qu'on lui avait présenté à l'enterrement. Ah, mais tenez, la voilà. » En effet, Teodora Luigi venait de s'asseoir dans une loge en face de nous, loge adjacente à l'avant-scène de M. Parlapapoulos. Teodora ne m'était jamais apparue avec une beauté aussi fatale. Ses yeux sombres, son teint de marbre, son front dur ne s'éclairaient même point du plus faible rayon quand M. Parlapapoulos, se penchant, lui adressait les plus gracieuses paroles. Ces phrases, nous ne les entendions point, mais nous en devinions la galanterie aux manières du Thessalien. Théodora ne paraissait même point les entendre, et quand il parlait, elle ne le regardait pas. Oh, cette femme me gâta ma soirée. J'essayais de ne plus la voir, mais mes yeux la retrouvaient malgré moi. Elle me faisait frissonner. Je n'enviais point M. Parlapapoulos. Pendant les entr'actes, pour échapper à cette hantise, je sortis dans les couloirs. Je croisai à plusieurs reprises un monsieur en habit, d'une ligne assez vulgaire, mais dont la figure ne m'était pas inconnue. Un moment, nos yeux se rencontrèrent. Alors, je me rappelais, c'était l'agent de la Sûreté Tamar qui nous avait introduits, Rouletabille et moi, dans la Villa Fleury le jour du drame. Jean conclut que lui aussi avait pris la succession du prince Henri et qu'il veillait maintenant sur le bonheur de M. Parapapoulos. Nous étions alors un samedi, le départ de Rouletabille était fixé au mercredi suivant. Je devais dîner chez eux le mardi. Or, le mardi matin, je reçus un mot de mon ami me priant de me trouver chez lui à 6 heures. Je m'y trouvais plus en avance que je ne le pensais. Je vis à la pendule du salon qu'il était 5h30. Ma hâte était bien compréhensible. Je m'assis et me mis à feuilleter un illustré. Quand on sonna à la porte de l'appartement, j'entendis un murmure de voix et le domestique, ouvrant la porte du salon, fit entrer Madame Boulanger. Oh, j'étais heureux de la revoir. Par deux fois, j'étais allé chez elle sans avoir eu la chance de la rencontrer. Je lui exprimai mes regrets et elle me répondit qu'elle avait été aussi peinée que moi. Je la trouvais bien changée, mais singulièrement belle dans sa pâleur. Elle ne devait pas être encore tout à fait remise physiquement de la terrible secousse, mais elle était mise avec une coquetterie qui ne me déplut point, car elle attestait que cette femme avait retrouvé le bonheur, ou croyait l'avoir retrouvé, ce qui est souvent la même chose. Elle me parla de son mari avec une tendresse admirable, et ne fit allusion au drame de Sainte-Adresse que pour me donner à comprendre qu'elle était prête à subir encore de pareils affres qui avaient eu un aboutissement aussi heureux. Par un égoïsme naturel au bonheur, elle ne s'inquiéta que médiocrement de nos personnes et ne parla d'Ivana que pour regretter qu'elle ne continuât point avec son mari des travaux dont elle avait tiré elle aussi le plus grand profit. « Rouletabille est un peu jaloux, » me dit-elle avec un bon et triste sourire. « Je ne lui en veux pas. Mais j'ai trouvé Ivana bien obéissante. Je voudrais la voir pour lui en faire tous mes compliments. » Ainsi, cette femme qui nous avait prouvé qu'elle était la meilleure de toutes et que nous savions parer de toutes les vertus et de toutes les délicatesses, ne trouvait point un mot pour nous remercier de tout ce que nous avions fait pour elle et ne semblait retenir à l'égard d'Ivana qu'un peu d'amertume parce que celle-ci avait laissé son mari continuer son effort tout seul. Évidemment, elle n'arrivait pas à comprendre comment on pouvait, quand on avait l'honneur de travailler à côté d'un homme comme Roland Boulanger, se résoudre à le quitter. Ah ! Elle l'aimait bien. Rouletabille ne rentrait toujours pas. Il était maintenant 5h30. Elle se leva et prit congé de moi, en me disant de l'excuser auprès de mon ami, mais qu'il lui fallait être chez elle quand Roland allait rentrer. Moi-même, je commençais à m'impatienter, j'arpentais un peu nerveusement le salon quand Rouletabille arriva. Il me parut bien ému. Madame Boulanger, qu'il avait rencontrée dans l'escalier, était remontée avec lui. « Mais enfin, qu'avez-vous? Vous n'êtes pas fâché, » lui dit-elle. « Écoutez, nous pouvons nous expliquer devant Saint-Clair. Je vois bien qu'il est inutile de continuer à vous mentir. » Moi, tout à l'heure, j'essayais encore de donner le change à votre ami, mais je désarme, et faites de moi ce que vous voudrez. Battez-moi, si vous le voulez, mais surtout, n'en voulez pas à Ivana, la pauvre enfant. Vous venez de me lancer dans l'escalier un de ces « bonjour, madame » qui me condamnent d'avance, eh bien, j'accepte la condamnation. Oui, c'est moi qui ai organisé les rendez-vous de travail chez le docteur Charles, puisqu'il faut maintenant se cacher de vous pour travailler. On vous a vu rôder hier autour de la clinique. Je suis venu pour savoir dans quel état d'esprit vous vous trouviez. Vous êtes furieux. Vous savez tout, mais je m'en doutais. Maintenant, j'en suis sûr. C'est affreux, n'est-ce pas? C'est épouvantable. Avant de partir pour un voyage de quelques mois, Ivana a consenti à mettre au net les résultats de ses travaux avec mon mari, afin qu'un pareil lameur ne soit pas perdu. C'est impardonnable. Mais vous ignorez donc, mon pauvre enfant, ce que c'est que les scientifiques. Vous ne vivez que d'imagination et de reportages au jour le jour. Vous ne pouvez concevoir ce qu'est un cerveau de scientifique, ni l'esprit qui l'habite, l'esprit de suite dans la poursuite de l'idée. Le scientifique ne s'arrête que lorsqu'il a touché l'idée, c'est-à-dire quand il l'a complètement matérialisée, ou il meurt. Je parle de l'homme de génie, naturellement. Dans l'ombre de sa course, il entraîne des disciples qui seront aussi acharnés que lui s'ils sont dignes de lui. Et voici Ivana, assise dans le bureau du docteur Charles, à côté de Roland Boulanger. Quel crime! Dites-moi tout de suite que vous lui pardonnez. Je ne vous pardonne pas, moi, le mensonge que vous nous avez imposé, tyran. Et dépêchez-vous, car je suis en retard, termina-t-elle en nous montrant la pendule. La véhémente apostrophe de Madame Boulanger, en prenant toute mon attention, m'avait fait négliger Rouletabille. Je le regardais sur ce dernier mot. Il avait le visage empreint de la plus dure impassibilité. Et il ne répondait pas à Madame Boulanger. « Je vois, dit la pauvre femme, que j'ai eu tort de remonter. » Et elle se dirigea vers la porte. Rouletabille, qui, en toutes circonstances, se montrait si parfaitement poli, ne la reconduisit point. Mais je la suivis dans une galerie où elle eut une légère défaillance et me glissa presque dans les bras. Je reviens tout de suite, criai-je à Rouletabille. J'accompagne Madame Boulanger. Elle me remercia d'un bon regard car elle se sentait en effet très faible. Dehors, j'arrêtai un autotaxi. Je la fis monter et lui dis. « Voulez-vous que je vous dépose ?»« Conduisez-moi chez le docteur Charles, » me fit-elle avec un pâle sourire. « Hélas, je vois bien que Roland et moi, nous avons perdu un ami. »« J'ai une bien grosse peine pour Ivana. » Leur voyage leur fera oublier. « Et je vous ramènerai Rouletabille, » lui dis-je. Elle me remercia en me pressant doucement la main. Devant la clinique du docteur Charles, je la laissai. Elle paraissait un peu remise. Je vais dire à Roland combien vous avez été bon et avertir notre pauvre Ivana de la scène qui l'attend. Je la rassurai un peu. Les femmes, oh, savent toujours se faire pardonner. Rouletabille est beaucoup moins méchant qu'il n'en a l'air. 10 minutes plus tard, j'étais revenu chez Rouletabille. 6 heures sonnaient. Je le retrouvais dans le salon à la même place. Sans me dire un mot, il me fit passer dans son cabinet de travail, s'assit à son bureau, l'ouvrit, en releva le cylindre et, dans un tiroir secret, prit 3 lettres qu'il me pria de lire. C'étaient des lettres de Roland à Ivana, où il était parlé de toute autre chose que de la tuberculose des poules. Le plus ardent amour s'y formulait avec une naïve audace. Je ne les transcris pas ici parce que ce serait tout à fait inutile et puis parce que je ne me rappelle pas le texte exact. Tout de même, elle laissait cette impression, plus que l'impression. la certitude qu'Ivana se défendait le plus aimablement du monde, en tout cas qu'elle n'avait pas dépassé les limites du jeu. C'est ce que je fis comprendre à Rouletabille, et c'est seulement alors que je m'aperçus du bouleversement dans lequel il était. Jusqu'alors, il s'était maîtrisé, mais ici, il éclata. « Mais c'est une misérable !» Puis, honteux d'avoir trahi dans un cri tout son désespoir, il se mit les mains devant la figure et resta quelques instants sans prononcer une parole. Derrière ses mains, il domptait ses larmes, il étouffait le sanglot qui lui gonflait la gorge. Quand il me montra à nouveau son visage, je vis une face hâve, creuse et vieillie, mais grimaçante de froide ironie. Je vis un nouveau Rouletabille, celui qui ne croyait plus à rien. Je ne reconnus plus mon ami. Tant de jeunesse, une si belle foi, tant de lumière sur un noble front, tant de confiance naïve dans un génie au service de la vérité, ses yeux clairs et pleins de rayons, tout avait disparu sous un masque de cendre. « Je n'ai plus rien à apprendre, me dit-il. J'ai fait le tour de la famille. Maintenant, je connais les hommes. Une femme a été mon porte-flambeau dans ces ténèbres que je croyais connaître et où j'entrais d'un pas léger. Maintenant, les ténèbres me font peur et la lumière m'épouvante. Tout à l'heure, tu vas voir entrer cette femme. Elle me tendra son front pur et elle serrera ton honnête main. Imagine que je ne t'ai rien dit. C'est la douce flamme de mon foyer. C'est l'amour conjugal dans ce qu'il a de plus noble et de plus charmant. Elle est belle et tranquille. Elle a un baiser pour l'époux, un sourire pour l'ami. Elle nous parle de ses travaux et nous l'écoutons. Eh bien, cet ange, mon cher, sort des bras de Roland. Je t'ai écrit de venir pour que tu assistes à ce qui va se passer ici. Depuis que je connais mon infortune, j'aurais pu la tuer, mais j'ai parcouru trop d'étapes pour arriver à toute la vérité, mon malheur. Je l'ai trop prévu pour qu'il déchaîne la foudre. Et puis, la tuer, c'est lui prouver que je l'aime encore et c'est elle qui triomphe. Non, non, elle vivra. J'ai pensé à toi, c'est toi le plus fort. Tu as méprisé, et alors je lui dirai mon dégoût, sans paraître étonné, et puis je continuerai ma route en lui tournant le dos. Il sortit sa pipe de sa poche, mais il ne parvenait pas à la bourrer. Il finit par la jeter avec violence sur le bureau, et il se leva en poussant un effrayant soupir. « Oh, Sinclair !» Nous tombâmes dans les bras l'un de l'autre. Mais notre effusion fut courte. Une domestique vint nous dire que des messieurs désiraient parler à M. Rouletabille. Ces messieurs suivaient cette femme de chambre sur ses talons. « Tiens, ami Froid !» fit mon ami en reconnaissant le sympathique commissaire bien connu de tout Paris. « Qu'est-ce qui vous amène, mon ami ?» Malgré le tragique des circonstances, je ne pus m'empêcher d'admirer l'art avec lequel Rouletabille était parvenu en une seconde à cacher son émotion. Le commissaire ferma la porte derrière lui, sur le nez des autres messieurs, et s'avança dans le bureau. « Mon pauvre ami, lui dit-il, sans voir la main que Rouletabille lui tendait, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Avec un autre, je pourrais voiler la vérité, mais soyez fort. Votre femme a été assassinée. » Rouletabille poussa un cri et s'accrocha à mon bras. « Assassiné ? » fit-il d'une voix rauque. « Où ça ?»« À Passy, impasse la roche. J'ai une auto, si vous voulez m'accompagner. » Rouletabille était comme hébété. Il me regardait avec des yeux d'où l'intelligence avait fui. Vous pensez que je ne le quittais pas. Un quart d'heure plus tard, nous nous trouvions tout au fond de Passy, devant une villa entourée de hauts murs. En route, j'avais interrogé le commissaire, mais il paraissait n'être encore au courant de rien. Il ne put même pas me dire à quelle heure le crime avait eu lieu. Du reste, j'étais moi-même tout à fait étourdi de la brusquerie et de la cruauté des événements. Je me rappelle vaguement avoir traversé un jardin planté d'arbres touffus, avoir monté un escalier, avoir traversé une salle où, sur une table guéridon, se trouvaient les restes d'un goûter. Enfin, dans une chambre à coucher, indiquant le plus grand désordre, toute une troupe d'hommes noirs s'écarta devant nous et nous aperçûmes, sur le tapis, deux corps étendus, celui de Roland Boulanger et celui d'Ivana. Le vêtement de l'homme ne témoignait d'aucun combat. Roland avait reçu deux balles, l'une en plein cœur. Cette balle avait fracassé en passant la montre dans la poche du gilet et l'autre dans le poumon gauche par derrière. Ivana également avait reçu deux balles, l'une qui l'avait atteinte à la hanche gauche. Cette balle avait dû être tirée pendant une courte lutte, attestée par l'épaulette droite de la robe arrachée, la manche froissée, le poignet droit et l'épiderme de la main droite légèrement déchirés. Une seconde balle, près de la tempe, semblait avoir été tirée pour l'achever, pour lui régler définitivement son compte. Et cependant, Ivana respirait encore. Disons tout de suite que l'on retrouva une cinquième balle dans le plafond, nouveau témoignage de lutte avec celui ou celle qui apportait la mort dans cette demeure. J'ai dit qu'Ivana n'était pas encore morte. Elle rouvrit les yeux pour fixer Rouletabille d'un suprême regard immobile. Je vis distinctement ses lèvres s'entr'ouvrir comme pour un baiser. Alors, il y eut un affreux gémissement et le choc d'un corps sur le plancher. C'était Rouletabille qui tombait à genoux et qui, écartant le médecin, prenait un baiser suprême sur les lèvres de sa femme expirante. Ainsi recueillit-il son dernier souffle. Nous eûmes beaucoup de peine à l'arracher à cette dépouille chérie. « Elle était innocente !» soupira-t-il, presque expirant lui-même. « C'était ma petite Ivana !» On le porta plutôt qu'on ne le conduisit dans la salle à côté, et là, l'un des hommes noirs lui posa tout à coup cette question. « Vous connaissiez cette ville-là ? » Rouletabille releva la tête et regarda le magistrat jusqu'au fond des yeux. « Je l'ai vu aujourd'hui pour la première fois, » dit-il. « Et à quelle heure en êtes-vous sorti la première fois ?» Le malheureux hésita, nous regarda, finit par prononcer dans un souffle « Je ne vous comprends pas. »« Je vais vous le dire, moi, » fit le magistrat. « Vous en êtes sorti à 5 heures, et le crime a eu lieu à 5h05 exactement. » Rouletabille se redressa dans une protestation immense de tout son être. « Vous croyez donc que c'est moi qui l'ai assassiné ?» Le soir même, il couchait à la santé.